pour comprendre ce qu'il y a de radicalement nouveau dans l'homme économique du point de vue du problème du pouvoir et de l'exercice légitime du pouvoir, je voudrais commencer par vous citer un texte de Condorcet qui me paraît assez éclairant là-dessus. Ça se trouve dans Le progrès de l'esprit humain à la 9e époque. Condorcet dit « Soit l'intérêt d'un individu isolé du système général des sociétés. » L'intérêt d'un individu isolé du système général des sociétés, il veut dire non pas que l'individu est isolé par rapport à la société, c'est-à-dire qu'il ne prend pas un individu seul, il veut dire soit un individu dans la société, mais dont on envisagera son intérêt à lui et à lui seul. Eh bien, dit-il, cet intérêt proprement individuel de quelqu'un qui se trouve à l'intérieur du système général, non seulement d'une société, mais des sociétés. Eh bien, cet intérêt présente deux caractères. Premièrement, c'est un intérêt qui dépend d'une infinité de choses. L'intérêt de cet individu, il va dépendre d'accidents de la nature auxquels il ne peut rien et qu'il ne peut pas prévoir. Ça dépend d'événements politiques plus ou moins lointains. Bref, la jouissance de cet individu va se trouver liée à un cours du monde qu'il déborde et qui lui échappe de toutes parts. Deuxième caractère, c'est que malgré tout, et en retour, dans ce chaos apparent, on voit, dit Condorcet, on voit néanmoins, par une loi générale du monde moral, les efforts de chacun pour soi-même servir au bien de tous. Ce qui veut dire que d'une part, chacun se trouve bien dépendant par rapport à un tout qui est incontrôlable, qui est non spécifié, qui est le cours des choses et le cours du monde, et en quelque sorte, l'événement le plus lointain qui peut se passer sur l'autre face du globe, eh bien cet événement, il peut retentir sur mon intérêt, et à tout cela, je ne pourrai rien. La volonté de chacun, l'intérêt de chacun, et la manière dont cet intérêt est réalisé ou pas, eh bien tout cela est lié à une masse d'éléments qui échappent à tout individu. Et en même temps, l'intérêt de cet individu va produire, sans que cet individu le sache non plus, sans qu'il le veuille non plus, sans qu'il puisse non plus le contrôler, va se trouver lié à toute une série d'effets positifs qui va faire que tout ce qui est profitable pour son intérêt va se trouver profitable aux autres. Si bien que l'homme économique se trouve ainsi placé dans ce qu'on pourrait appeler un champ d'immanence indéfinie qui le lie d'une part sous forme de la dépendance à toute une série d'accidents et qui le lie d'autre part sous forme de la production au profit des autres, ou qui lie son profit à la production des autres. La convergence des intérêts vient ainsi doubler et recouvrir ce disparate indéfini des accidents. L'homo economicus se trouve donc ainsi placé dans ce qu'on pourrait appeler un double involontaire, l'involontaire des accidents qui lui arrivent et l'involontaire du profit qu'il produit pour les autres, sans qu'il les cherche. Il est également placé dans un double indéfini, puisque, d'une part, les accidents dont dépend son intérêt appartiennent à un domaine que l'on ne peut pas parcourir ni totaliser, et d'un autre côté, le profit qu'il va produire pour les autres en produisant le sien propre, eh bien, lui aussi est un indéfini qui n'est pas totalisable. Double involontaire, double indéfini, double non totalisable, sans que pour autant ces indéfinis, ces involontaires, ces incontrôlables, ces intotalisables disqualifient son intérêt, sans que ça disqualifie le calcul qu'il peut faire pour rejoindre au mieux son intérêt, au contraire. Ces indéfinis fondent en quelque sorte le calcul proprement individuel qu'il fait, lui donne consistance, lui donne effet, l'inscrivent dans la réalité et le lie de la meilleure façon possible avec tout le reste du monde. On a donc un système dans lequel l'homo economicus va devoir le caractère positif de son calcul à tout ce qui précisément échappe à son calcul. Bon. On arrive là, bien sûr, au texte qu'on ne peut pas éviter et qui est celui d'Adam Smith, le fameux texte du chapitre 2 du livre 4, dans lequel Adam Smith dit, c'est le seul texte, vous le savez, où il parle de cette fameuse chose, la richesse des nations, où il parle de cette cela, en préférant le succès de l'industrie nationale à celui de l'industrie étrangère, il ne pense, enfin le marchand, ne pense qu'à se donner personnellement une plus grande sûreté, en dirigeant cette industrie de manière à ce que son produit ait la plus grande valeur possible, le marchand ne pense qu'à son propre gain, en cela et en beaucoup d'autres, il est conduit par une main invisible pour remplir une fin qui n'entre nullement dans ses intentions. Nous voilà donc au cœur de cette problématique de la main invisible, qui est, si vous voulez, le corrélatif de l'homo economicus, ou plutôt, qui est cette espèce de bizarre mécanique qui fait fonctionner l'homo economicus comme sujet d'intérêt individuel à l'intérieur d'une totalité qui lui échappe et qui pourtant fonde la rationalité de ses choix égoïstes. Qu'est-ce que c'est que cette main invisible ? Bon, alors, bien sûr, on a l'habitude de dire que la main invisible se réfère, bien sûr, dans la pensée de Smith, à un optimisme économique plus ou moins réfléchi. On a l'habitude aussi de dire que dans cette main invisible, il faut voir comme le reste d'une pensée théologique de l'ordre naturel. Smith serait l'individu qui aurait plus ou moins implicitement, par cette notion de main invisible, fixé la place vide mais malgré tout secrètement occupée d'un dieu providentiel qui habiterait le processus économique, un petit peu, si vous voulez, comme le dieu de Malebranche occupe le monde tout entier et jusqu'au moindre geste de chaque individu, par le relais d'une étendue intelligible dont il a la maîtrise absolue, la main invisible d'Adam Smith, ça serait un petit peu comme le dieu de Malebranche, dont l'étendue intelligible serait non pas peuplée de lignes de surface et de corps, mais une étendue intelligible qui serait peuplée eh bien, de marchands, de marchés, de navires, de charrois, de grands chemins, etc. L'idée par conséquent que il y a comme une transparence essentielle dans ce monde économique et que si la totalité des processus échappe à chacun des, j'allais dire, homines, je ne sais pas, enfin, des homo economicus, si donc la totalité échappe à chacun des hommes économiques, en revanche, il y a un point où l'ensemble est totalement transparent, a une sorte de regard, le regard de quelqu'un dont la main invisible, suivant la logique de ce regard et suivant ce que voit ce regard, nous ensemble les fils de tous ces intérêts dispersés. Donc une exigence, sinon un postulat de transparence totale du monde économique. Or, quand on lit le texte un tout petit peu plus loin, qu'est-ce que dit Adam Smith ? Il dit à propos, donc, il vient de parler de ces gens qui, sans trop savoir pourquoi ni comment, suivent leur propre intérêt, et puis finalement, ça profite à tout le monde. On ne pense qu'à son propre gain, et finalement, l'industrie tout entière en profite. Et, dit-il, les gens ne pensent qu'à leur propre gain et ne pensent pas au profit de tout le monde. Et il ajoute, ce n'est d'ailleurs pas toujours le plus mal que cette fin, à savoir le profit de tous, n'entre en rien dans cette société, préoccupation de la, disons, de l'agent des marchands. Ça vaut beaucoup mieux que cette fin n'entre pas dans leurs préoccupations. Je n'ai jamais vu que ceux qui aspirent dans leurs entreprises de commerce à travailler pour le bien général aient jamais fait beaucoup de bonnes choses. Il est vrai que cette belle passion n'entre pas très communément parmi les marchands. En gros, grâce au ciel, les gens ne se préoccupent que de leurs intérêts. Grâce au ciel, les marchands sont de parfaits égoïstes et rares sont parmi eux ceux qui se préoccupent du bien général. Car lorsqu'ils commencent à se préoccuper du bien général, c'est à ce moment-là que les choses commencent à ne pas marcher. Mais il faut aller plus loin. Non seulement le gouvernement ne doit pas faire obstacle à l'intérêt de chacun, mais il est impossible que le souverain puisse avoir sur le mécanisme économique un point de vue qui totalise chacun des éléments et permette de les combiner artificiellement ou volontairement. La main invisible qui combine spontanément les intérêts interdit en même temps toute forme d'intervention, bien mieux, toute forme de regard en surplomb qui permettrait de totaliser le processus économique. Sur ce point, un texte de Ferguson est très clair. Il dit, dans l'histoire de la société civile, « Plus l'individu gagne pour son propre compte, plus il augmente la masse de sa richesse nationale. Toutes les fois que l'administration, par des raffinements profonds, porte une main agissante sur cet objet, l'administration ne fait qu'interrompre la marche des choses, multiplier les sujets de plainte. Toutes les fois que le commerçant oublie ses intérêts pour se livrer à des projets nationaux, le temps des visions et des chimères est prochain. » Et Ferguson prend deux exemples, enfin plutôt prend l'exemple des établissements français et anglais en Amérique, et il dit, analysant le mode de colonisation français-anglais, il dit, bien les Français, ils sont arrivés avec leur projet, leur administration, leur définition de ce qui serait le mieux pour leur colonie d'Amérique. Ils ont bâti de vastes projets, et ces vastes projets n'ont jamais pu être réalisés qu'en idée, et les colonies françaises d'Amérique se sont effondrées. En revanche, les Anglais, ils sont arrivés pour coloniser l'Amérique avec quoi? Avec des grands projets? Pas du tout. Avec des vues courtes. Des vues courtes, ils n'avaient aucun autre projet que le profit immédiat de chacun, ou plutôt chacun n'avait en vue que la vue courte de son propre projet. Du coup, les industries ont été actives et les établissements sont devenus florissants. L'économie, par conséquent, l'économie entendue comme pratique, mais entendue également comme type d'intervention du gouvernement, comme forme d'action de l'État ou du souverain, eh bien, l'économie ne peut avoir que la vue courte. Et s'il y avait un souverain qui prétendait avoir la vue longue, le regard global et totalisant, eh bien, ce souverain ne verrait jamais que des chimères. L'économie politique dénonce, en milieu du XVIIIe siècle, le paralogisme de la totalisation politique du processus économique. Et que le souverain soit, que le souverain puisse, que le souverain doive être ignorant, c'est ce que Adam Smith dit au chapitre 9, livre 4 de la richesse des nations, éclairant parfaitement ce qu'il veut dire par la main invisible et l'importance qu'il y a dans cet adjectif invisible. Smith dit ceci: tout homme, pourvu qu'il n'enfreigne pas les lois de la justice, doit pouvoir porter où il lui plaît son intérêt et son capital. Donc, principe du laisser-faire, chacun en tout cas doit suivre son intérêt. Et du coup, dit-il, d'une manière relativement hypocrite, enfin, il dit, c'est moi qui rajoute ça. Le souverain, eh bien, il ne peut s'en trouver que très bien, car le voilà débarrassé d'une charge qu'il ne saurait essayer de remplir, le soin donc de tous les processus, de la surveillance de tous les processus économiques, il se trouve débarrassé d'une charge qu'il ne pourrait essayer de remplir sans s'exposer infailliblement à se voir sans cesse trompé de mille manières. Je dis phrase hypocrite parce qu'on peut aussi bien l'entendre. Ceci, c'est que le souverain, qui est un homme seul, entouré de conseillers plus ou moins fidèles, s'il entreprenait la tâche infinie de surveiller la totalité du processus économique, se verrait sans doute trompé par des administrateurs et des ministres infidèles. Mais la phrase veut dire aussi que ce n'est pas simplement par l'infidélité de ses ministres ou la complexité d'une administration forcément incontrôlable qu'il commettrait des erreurs. Il commettrait des erreurs, en quelque sorte, pour une raison essentielle et fondamentale. Il ne pourrait pas ne pas se tromper. Et c'est d'ailleurs ce que dit la fin de la phrase, lorsque, parlant donc de cette tâche, de cette charge dont le souverain doit se trouver déchargé, la tâche de surveiller la totalité du processus économique, pour l'accomplissement convenable de cette tâche, il n'y a aucune sagesse humaine ni aucune connaissance qui suffise. La rationalité économique se trouve non seulement entourée par, mais fondée sur l'inconnaissabilité de la totalité du processus. L'homo economicus, c'est le seul îlot de rationalité possible à l'intérieur d'un processus économique dont le caractère incontrôlable ne conteste pas, mais fonde au contraire la rationalité du comportement atomistique de l'homo economicus. Ainsi, le monde économique est par nature opaque, il est par nature intotalisable. Il est originairement et définitivement constitué de points de vue dont la multiplicité est d'autant plus irréductible que cette multiplicité même assure spontanément et en fin de compte leur convergence. L'économie est une discipline athée, l'économie est une discipline sans Dieu, l'économie est une discipline sans totalité, l'économie est une discipline qui commence à manifester non seulement l'inutilité, mais l'impossibilité d'un point de vue souverain, d'un point de vue du souverain, sur la totalité de l'État qui a à gouverner. L'économie subtilise à la forme juridique du souverain exerçant sa souveraineté à l'intérieur d'un État, il lui subtilise ce qui est en train d'apparaître comme l'essentiel de la vie d'une société, à savoir les processus économiques. Le libéralisme, dans sa consistance moderne, a commencé lorsque précisément fut formulée cette incompatibilité essentielle entre, d'une part, la multiplicité non totalisable caractéristique des sujets d'intérêt, des sujets économiques, et d'autre part, l'unité totalisante du souverain juridique. Il est d'ailleurs intéressant de voir que plus précisément encore s'oppose la théorie de la main invisible. S'oppose très exactement à ce que disaient, presque à la même époque, ou en tout cas ce que venaient de dire quelques années auparavant, les physiocrates. Parce que la position des physiocrates est à ce point de vue-là très intéressante et très paradoxale. Les physiocrates en France ont fait précisément sur le marché et les mécanismes du marché ces analyses dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois et qui prouvaient qu'il ne fallait absolument pas que le gouvernement, que l'État, que le souverain intervienne sur la mécanique des intérêts qui faisait que les marchandises allaient là où elles trouvaient le plus facilement des acheteurs et au meilleur prix. La physiocratie était donc une critique sévère de toute cette réglementation administrative par laquelle s'exerçait le pouvoir du souverain sur l'économie. Mais les physiocrates ajoutaient aussitôt ceci. Il faut laisser libres les agents économiques. Mais, premièrement, il faut considérer que le territoire tout entier d'un pays, c'est au fond la propriété du souverain. Ou en tout cas que le souverain est copropriétaire de toutes les terres du pays et par conséquent coproducteur. Ce qui leur permettait de justifier l'impôt. Donc le souverain va se trouver dans la conception physiocratique adéquat en quelque sorte principe en droit, et en fait d'ailleurs, adéquat à toute la production et à toute l'activité économique d'un pays à titre de copropriétaire des terres et coproducteur du produit. Deuxièmement, l'existence, disent les physiocrates, l'existence d'un tableau économique qui permet de suivre très exactement le circuit de la production et de la constitution de la rente donne au souverain la possibilité de connaître exactement tout ce qui se passe à l'intérieur de son pays et de pouvoir par conséquent contrôler les processus économiques, c'est-à-dire que le tableau économique va donner au souverain, va offrir au souverain un principe d'analyse et comme un principe de transparence par rapport à la totalité du processus économique. De sorte que si le souverain laisse libre les agents économiques, c'est parce qu'il sait, et il sait grâce au tableau économique, à la fois ce qui se passe et comment il faut que ça se passe. Donc il pourra, au nom de ce savoir total, accepter librement et rationnellement, ou plutôt il devra bien accepter par la nécessité même de la raison, du savoir et de la vérité, le principe de la liberté des agents économiques. De sorte que entre la conscience du souverain, plutôt le savoir du souverain et la liberté des individus, il va y avoir une seconde adéquation. Enfin, troisièmement, un bon gouvernement, celui justement d'un souverain qui connaît exactement tout ce qui se passe quant au processus économique et grâce au tableau économique. Eh bien, un bon gouvernement devra expliquer aux différents agents économiques, aux différents sujets, comment ça se passe, pourquoi ça se passe, et ce qu'ils doivent faire pour maximiser leurs profits. Il devra y avoir un savoir économique qui sera répandu le plus largement possible et aussi uniformément que possible parmi tous les sujets. Et ce savoir économique, dont le principe se trouve toujours dans le tableau économique dressé par les physiocrates, ce savoir économique, il sera commun au sujet bien éduqué économiquement et au souverain qui saura reconnaître les lois fondamentales de l'économie. De sorte qu'il y aura au niveau du savoir, au niveau de la conscience de vérité, une troisième adéquation entre le souverain et les processus, ou du moins les agents économiques. De sorte que chez les physiocrates, vous voyez que le principe du laisser-faire, le principe de la liberté nécessaire des agents économiques, se trouve pouvoir coïncider avec l'existence d'un souverain, et l'existence d'un souverain d'autant plus despotique, d'autant moins tenu par des traditions, des habitudes, des règles, des lois fondamentales, que sa seule loi sera celle d'une évidence, celle d'un savoir bien dressé et bien construit, qu'il partagera avec les agents économiques. C'est là, et là seulement, que l'on a en effet l'idée d'une transparence de l'économique et du politique l'un par rapport à l'autre. C'est là, et là seulement, que l'on peut trouver l'idée qu'il y a il faut laisser aux agents économiques leur liberté et que l'on aura une souveraineté politique qui parcourra d'un regard et en quelque sorte dans la lumière uniforme de l'évidence la totalité du processus économique. La main invisible d'Adam Smith, c'est tout le contraire. C'est la critique de cette idée paradoxale d'une liberté économique totale et d'un despotisme absolu qu'avaient essayé de soutenir les physiocrates dans la théorie de l'évidence économique. La main invisible, elle pose au contraire en principe que cela n'est pas possible, qu'il ne peut pas y avoir de souverain au sens physiocratique du terme, qu'il ne peut pas y avoir de despotisme au sens physiocratique du terme, parce qu'il ne peut pas y avoir d'évidence économique, de sorte que vous le voyez. Dès le départ, en tout cas si on appelle départ de l'économie politique la théorie d'Adam Smith et la théorie libérale, vous voyez que la science économique ne s'est jamais présentée comme devant être la ligne de conduite, la programmation complète de ce que pourrait être la rationalité gouvernementale. L'économie politique est bien une science. C'est bien un type de savoir, c'est bien un mode de connaissance dont il faudra que ceux qui gouvernent tiennent compte, mais la science économique ne peut pas être la science du gouvernement, et le gouvernement ne peut pas avoir pour principe, loi, règles de conduite ou rationalité interne, l'économie. L'économie est une science marginale, enfin marginale, c'est une science latérale. Par rapport à l'art de gouverner, on doit gouverner avec l'économie, on doit gouverner à côté des économistes, on doit gouverner en écoutant les économistes, mais il ne faut pas, il n'est pas question, il n'est pas possible que l'économie, ça soit la rationalité gouvernementale elle-même. Bon, bien, je crois que c'est comme ça qu'on peut, semble-t-il, commenter la théorie de la main invisible par rapport au problème de la rationalité gouvernementale ou de la le gouvernement. Alors, il se pose un problème de quoi va s'occuper le gouvernement et quel va être son objet, si tant est que ce n'est pas le processus économique et la totalité du processus économique qui constituent de plein droit son objet. Alors ça, c'est, je crois, la théorie de la société civile dont j'essaierai de vous parler la prochaine fois.